Bien, alors bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième journée du colloque sur les principes métaphysiques organisé par la chaire de philosophie, de métaphysique et de philosophie de la connaissance du professeur Claudine Tiercelin. Nous sommes ravis ce matin d'accueillir Jean-Maurice Monnoyer pour le premier exposé. Monsieur Monnoyer va nous présenter une conférence intitulée « La raison du fondement ». Quelques mots de présentation. Jean-Maurice Monnoyer est professeur à Aix-Marseille Université. Il a édité et présenté notamment « La structure du monde, objets, propriétés et états de choses », paru chez Vrin en 2004. Il a également traduit un ouvrage d'Achille Varzi et d'Armstrong, des ouvrages traduits en 2010 et en 2011. Il a également dirigé le collectif « Metaphysics and Truthmakers », paru en 2007. Et il anime depuis 2013 le séminaire de métaphysique à Aix, si je ne me trompe pas. Voilà, je vous laisse la parole.
Merci. Bonjour à tous. Je vais essayer d'être audible et pas trop compliqué. Je vais discuter du principe de raison suffisante, mais pas dans les termes historiques de Leibniz, bien que j'en ai très, très envie. Bon, je vais essayer de parler d'une question qui a été abordée hier par vous-même, Alexandre Desclos, puis par Felipe, c'est-à-dire la question de savoir si on peut vraiment aujourd'hui traiter de la fondamentalité d'une façon sérieuse et métaphysiquement sérieuse, en posant la question pourquoi une raison au fondement, pourquoi faut-il qu'il y ait une raison au fondement, avons-nous besoin d'un fondement métaphysique, même si chacun comprendra de suite qu'il y a un caractère un peu ambigu et présomptueux dans le titre de cette communication. Parce que je voudrais appliquer le principe de raison suffisante à une exigence gnoséologique, à savoir ce que l'on peut vraiment connaître du fondement, ce qui explique les difficultés qu'on a à parler d'un fondement conceptuel, qu'est-ce que c'est que le concept de fondement, et si nous reconnaissons des cas où il n'y a pas d'explication causale, est-ce que nous devons en conclure qu'une autre relation l'explique, c'est ici que je m'oppose un peu à vous, à savoir que nous aurions devant nous une relation particulière avec l'inexplicable, c'est-à-dire avec une quantité de choses qui sont brutes, infondées, avec lesquelles nous serions précisément dans une autre relation. Pour beaucoup d'auteurs, la relation, disons, fondationnelle ou l'instauration d'un fondement métaphysique est foncièrement non causale, dans la mesure où la nature de l'explication en général est soumise depuis pas mal d'années à une très forte déflation dans tous les domaines, et cette critique de l'explicabilité sous la forme classique qu'on utilisait jadis, disons dans une tradition positiviste, n'est en fait ni métaphysique ni épistémique. Par conséquent, pour certains, la relation même du grounding, puisqu'il faut citer cette expression du grounding comme étant l'expression la plus souvent admise dans le vocabulaire, n'a aucun sens distinctif. Au sens distinctif qu'emploie par exemple Kitwein quand il dit « the idea of a fact making a statement true ». Mon exposé aujourd'hui va d'abord présenter, je vais essayer de parler rapidement dans trois sections. Une première section qui sera un scepticisme. Pourquoi on peut établir qu'il y a un scepticisme, des raisons du scepticisme concernant ce dit fondement, qui recherche sur les, cette recherche sur l'expression d'un fondement métaphysique et la manière de présenter le principe métaphysique, proprement dit. Deuxièmement, je ferai une critique de ce que j'appelle « making ground ». C'est le fait que, tout simplement, Keith Fine et d'autres ont voulu fabriquer du fondement. Ils ont fabriqué du fondement par un procédé, on va voir, un petit peu curieux. Et enfin, comment, bien sûr, c'est la notion de vérifacteur qui est contestée, contestée curieusement, elle est contestée en 2012, et puis la période toute récente, vous savez que Keith Fine est revenu lui-même sur ce qu'il avait écrit en publiant un gros papier qui s'appelle « Sémantique du truth-making ». Donc ça veut dire que c'est une question qui est importante, pas seulement dans l'acceptation de l'idée qu'il y a un fondement, mais dans les raisons qui peuvent amener des chercheurs à être même en questionnement permanent. Madame le professeur Tiercela a très justement expliqué hier que la notion même d'un principe tel que Carnap l'avait expliqué, la recherche d'une priorité, la primarité d'un principe était suspecte, qui est aucunement analytique. Alors on a la possibilité d'admettre à la place des types de constitution, des formes de construction, toutes sortes. Que ce soit au sens structural, par exemple, ou ce soit au sens méréologique. Mais les candidats naturels pour se présenter comme des relations métaphysiques qui auraient besoin d'être fondées et seraient les mieux pertinentes, reste un problème. Et quelles sont-elles? Alors, la première chose que l'on discute beaucoup, c'est la relation de constitution matérielle, ou la notion de réalisation, pour ce qui est des propriétés physiques et mentales. Alors, la relation de construction matérielle et celle de réalisation sont souvent évoquées, comme je viens de le dire, mais la vraie difficulté est de fixer ce qu'on entend retenir. Qu'est-ce qu'il faut retenir en ce sens si on entend que la relation de fondation, comme vous l'avez expliqué hier, n'est pas fondamentale? Puis à mesure où ce qui est fondamental, c'est ce qui n'est pas fondé. On tombe évidemment sur un paradoxe, puisque la nécessité de la fondamentalité est précisément métaphysique et que nous ne pourrions poser que des pouvoirs ou des dispositions, enfin quelque chose qui serait des pouvoirs ou des dispositions qui serait catégoriquement fondamental à la place de ce qui est simplement explicable. Il faut donc chercher les conditions d'application du concept de fondement. Quel fondement? Pourquoi un fondement? Quelle relation autre que celle de l'explanandum à l'explanance? Quel fondement? Pourquoi? Interroger les conditions d'application du terme et peut-être, effectivement, prendre quelques distances avec la notion grounding, dans la mesure où on n'est pas certain que cette relation soit une relation à tout faire, grounding, coarse grain, metaphysical relation, c'est l'idée qu'elle pourrait servir à expliquer d'autres sortes de relations. Pour aller vite, on peut dire, pour aller vraiment très vite, que cette relation du fondement se ferait ou bien entre des propositions, ou bien entre des faits. Dans le premier cas, s'il s'agit d'une relation entre propositions, l'une devrait rendre raison de l'autre, au sens leibnizien de l'expression « rendre raison », mais le risque est qu'elle soit ad hoc d'une proposition à l'autre. Si la relation de fondement est entre des faits, alors il faut admettre que les faits valent pour des raisons, ce qui est tout à fait possible, mais le danger à ce moment-là est un autre, c'est qu'on ait précisément des raisons qui sont des faits vrais et qui sont eux-mêmes tautologiques. Enfin, il y a une troisième possibilité, qui est celle qu'a interrogé hier soir Felipe, c'est parler de la notion d'essence pour encapsuler une nécessité. Et dans ce cas, sous cette acception dernière, il y aurait des vérités essentielles attachées au fondement qui connectent entre elles, si je peux employer une expression de Frédéric Neff, qui connectent entre elles les éléments fondateurs. Mais avant de statuer sur ces trois possibilités que je viens de présenter rapidement, vous demandez quelle est la forme des énoncés qui traitent de la fondation, pourquoi est-ce que cette forme n'est pas exprincipiis toujours et présentée d'une façon condamnable. Nous pourrions bien sûr rester neutres sur l'engagement ontologique que nous faisons à l'égard de ces choix, mais cela ne change rien. Pour s'en assurer, il suffit souvent de considérer les propriétés spécifiques des relations. Par exemple, Correa et Fine utilisent, pour résoudre le problème, ils utilisent un connecteur qui n'est pas vérifonctionnel. Ils vont utiliser le mot même de ground comme connecteur. Et ils vont introduire l'idée que les relata sont des phrases. Mais si ce n'était que des phrases, alors on pourrait traiter les expressions fondationnelles comme des prédicats, et on aboutirait à une contradiction, puisque les prédicats relationnels sont eux-mêmes soumis à l'utilisation d'un sens qui n'est pas vérifonctionnel. Alors, une idée centrale de la réflexion qui s'est amorcée depuis 2010-2012, en gros, et surtout à partir de 2012, et qui a été sujette à un très grand nombre de critiques, c'est l'idée que on va prendre ground, le mot fondement, pour an explanatory relation, pour quelque chose qui vaudrait pour une relation explicative. Donc, si la vérité que P est fondée sur d'autres vérités, alors elle est elle-même un énoncé pour ce genre de vérité. Et on utilise dans ce cas des expressions hyper-intentionnelles qui sont toutes les mêmes, qui sont « because » ou bien « in virtue of », c'est-à-dire « les choses sont vraies en vertu d'autres choses », par exemple « les cigales stridulent parce que les pies jacassent », les chats miaulent parce que les éléphants barissent, etc. Évidemment, est-ce que c'est une explication de l'ordre métaphysique ? Il ne semble pas. Certains faits ont une portée explicative beaucoup plus forte et qui n'est pas forcément non plus causale. Alors, la nécessité, ce qui est en jeu, c'est la valeur de la nécessité, la valeur de l'explication, le rôle de la nécessité. Est-ce que cette... Ce grounding est une véritable relation modale. Je crois que, justement, c'est un peu le sens de l'exposé d'hier de Philippe et de montrer que c'est pas, disons, cette nécessité du grounding n'est pas une nécessité métaphysique proprement dite. Il faut la chercher ailleurs. L'explication pose aussi d'autres énormes problèmes, puisque si on se dispense d'une théorie explicative, on va se trouver avec d'autres subtilités, des sophistications assez grandes, et qui vont nous montrer que si un fait est métaphysiquement nécessaire, alors, si quelque chose est fondé, rien ne fonde ce qui est métaphysiquement nécessaire. Et c'est le paradoxe de Dasgupta, critiquant Fine, que vous avez développé vous-même hier, très bien. Inversement, si on dit que P est un fait métaphysiquement nécessaire, qu'est-ce qui fonde alors le fait qu'il soit métaphysiquement nécessaire ? On voit les difficultés qui se présentent à nous et qui sont en gros des difficultés d'ordre sceptique. Je vais résumer ces positions. Pourquoi le scepticisme semble s'imposer dans la mesure où pour moi, ground ne peut pas être un connecteur de phrases. D'ailleurs, assez vite, ils se sont rendus compte que ça ne marchait pas, cette idée d'utiliser un terme comme le mot. Aujourd'hui, c'est Luc Schneider qui utilise because comme un. Il utilise le mot because comme un connecteur, ce qui me paraît à moi une façon de travailler un peu particulière. Donc, le fondement Est-il un concept dont nous avons besoin s'il est vraiment inintelligible? Et il est inintelligible s'il est pensé comme primitif, au sens où la Nietzsche nous montre que seul Dieu, en quelque sorte, peut fonder le principe de raison suffisante. La thèse centrale consiste à penser, par exemple, c'est une chose aussi que nous devons à un personnage, que la causalité n'est pas, en elle-même, le ciment de l'univers. D'autres relations métaphysiques le structurent, par exemple, justement, la nécessitation, la survenance, la dépendance ontologique et la fondation. Mais les principaux auteurs qui ont discuté de ce point envisagent les relata de la Gold Relation. Quels sont ces relata? Est-ce que ce sont, comme je vous disais il y a deux minutes, des faits? Dans ce cas-là, si je dis que A et F, eh bien, je vais le représenter par F de A, et je vais dire que F de A est fondé par G de B, ou que F de A est nécessité par G de B, ou que F de A est le constituant d'une propriété essentielle de G de B, ou enfin, que G de A survient sur F de A. Pourtant, je suis comme Gramopi très, très sceptique sur ces équivalences. Être fondé ne peut pas être défini de cette sorte, parce qu'on est obligé à ce moment-là de faire appel à une notion de secours qui est la brutalité, le fait brut. Si on admet que grounding, comme il était dit plusieurs fois hier, très justement, est une relation à la fois irréflexive, asymétrique et transitive, elle reste factive au sens où, si je dis que F de A fonde G de B, les deux faits existent. Mais elle n'est pas monotone. Donc le fondement, à ce moment-là, devient relatif et on se retrouve avec des expressions finalement assez communes qui consisteraient à dire qu'une chose est fondamentale si elle a un plus grand degré de réalité que. Si X a un plus grand degré de réalité que Y, on dira que X fonde Y. Mais, disons, pour les scientifiques, disons, à qui quand même nous adressons ces phrases comme s'ils devaient porter un verdict, les faits, les causes ne fondent pas leurs effets. Les causes ne fondent pas leurs effets. Même si on a l'habitude de faire cette réduction, ce n'est pas vrai. Les physiciens, disons ce que je vois, ils parlent de ce qui est basique. Ils ne parlent pas de ce qui est fondamental. Ils parlent d'entités basiques, d'entités de base, mais ils ne les considèrent pas comme des entités fondamentales. Par exemple, si je dis que les oiseaux ne peuvent pas voler s'ils n'ont pas d'ailes, ben, ça ne sert à rien de dire que j'ai là un grounding. Non, je n'ai pas un grounding dans le fait que les ailes permettent à un oiseau de voler. Donc vous voyez, la difficulté, c'est que, premièrement, on a, disons, des arguments sceptiques qui sont assez forts. Maintenant, venons-en à, une fois qu'on a évoqué ces objections sceptiques, la question de savoir si on peut néanmoins parler d'une raison du fondement en termes positifs. Dans ce cas-là, je dirais qu'on n'a pas besoin de vérifacteurs, c'est ce que nous répète Quitfine. Dans le temps où il ne croyait pas au truth-making, où il a critiqué le truth-making, assez violemment d'ailleurs, dans son article « Guide to Ground », on dira que P est vrai si P fonde qu'il est vrai que P. Parce qu'on a des expressions du genre « because » ou bien des adverbes comme « nécessairement » qui sont utilisés de manière hyper intentionnelle. Ils ne permettent pas de faire une substitution sensée entre des mondes possibles, et donc on obtient l'expression qui dit que P est vrai si et seulement si l'expression P est vrai est vraie. Je crois que ce point est vraiment le plus discuté, puisqu'il est, en effet, il porte en effet sur la manière de considérer la relation fondamentale comme une relation qui existe entre des assertions de vérité sur des propositions. Tout autre, évidemment, est la pensée de Leibniz. Et bon, bien sûr, je voudrais expliquer rapidement pourquoi il est intéressant de présenter le problème de cette manière. Dans une lettre que Leibniz a écrite à Clark, le cinquième, il cite une pièce alors à la mode qui est Arlequin, empereur de la Lune. Et il nous dit que le principe de raison suffisante s'impose parce que jusqu'ici, la philosophie première a été non démonstrative et peu féconde. Et il faut qu'il y ait une manière nette, dit-il, de relier le principe de raison suffisante et le principe des indiscernables. La première chose, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que cette affaire d'indiscernable. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui a un rapport avec la perception ? Je reviendrai là-dessus dans quelques minutes. Dans une première partie de son œuvre, donc, pour essayer de donner un sens positif et néo-leibnizien au principe du fondement, on peut dire que Leibniz a opposé le principe de contradiction, qu'il légifère dans le domaine des essences générales, et le principium experientiae, qui est valable dans le domaine des existences contingentes, et qui est dit à ce moment-là « quod varia a me percipiantur », c'est-à-dire qu'il dépend de moi de percevoir en quoi ces choses sont contingentes. Mais par la suite, ce qui s'oppose au principe de la raison abstraite, c'est le principium redendae rationis, sur lequel Heidegger a écrit deux livres, hein, en expliquant que rendre raison, c'est justement donner une sorte de ratification aux vérités de fait, aux vérités qui sont les vérités du monde, et ça n'aboutit à rien. Rendre raison, c'est en effet pour Leibniz le contraire de ce que nous dit Heidegger dans son explication, qui est un petit peu longue quand même. C'est opérer un jugement, c'est reconnaître une vérité en liaison avec une autre et y donner son consentement, comme il dit, dans les Nouveaux Essais 4-17, paragraphe 1. Donc, comme dans une intégrale, donner une raison suffisante de, c'est par les petites perceptions, insister pour montrer que de toutes petites différences, des seuils de discrimination sont reliés entre eux comme par une fonction. Et c'est pour ça qu'il dit que cet infini contingent est catégorématique. Donc on sait qu'il y a un principe de raison suffisante parce que nous pensons que l'analyse est infinie dans le détail, mais qu'on doit faire un saut qui est, dit-il, a priori, dans les nouveaux essais, paragraphe 4. Donc, même si on a beaucoup discuté de cette phénoménalité chez Leibniz, elle est quand même bien présente, hein, l'objet du principe, c'est de montrer que l'être comme phénomène, même si nous ne pouvons pas donner une explication et qu'elle reste lacunaire, rien n'est sans raison, c'est-à-dire, il ne faut pas non plus se tromper sur l'expression, hein, quelque chose existe dont la raison rend compte. C'est pour ça que la métaphysique d'aujourd'hui, je pense, ne peut pas se passer d'être une métaphysique à l'égard des existants et de rendre compte, justement, à sa manière, de, non pas au sens où elle serait de part en part empirique, mais au sens où elle prendrait en charge les existants actuels dans leur totalité. Car le principe de non-contradiction, le principe des identités, ne dit rien de l'entre-existence des notions réelles. Et justement, en ce sens-là, ce fait que les choses doivent exister exister entre elles par des notions qui les font exister entre elles, définit le principe de raison comme le plus puissant des principes. Comme le dit la monadologie, en 32-39, aucun fait ne saurait se trouver vrai ou existant, aucune énonciation véritable, sans qu'il y ait une raison suffisante pourquoi il en est ainsi et pas autrement. Donc je dirais, à ce moment-là, au sens de Luc Schneider, qui jouera hommage, que le bi-cause sans cause est le fondement. Quelle est la raison des vérités contingentes qui échappent aux énonciations identiques ? C'est peut-être le principe d'individuation qui viendrait ici coupler le principe de raison suffisante. Même si cette chose n'est pas dite explicitement, elle est dite dans la confession philosophie à la fin, mais elle n'est pas dite explicitement parce que la systématicité de la présentation des différents principes métaphysiques chez Leibniz n'obéit pas à un principe de complétude. On ne sait pas, par exemple, si le principe des indiscernables dépend vraiment du principe de raison suffisante, ni si le principe de contradiction n'est pas impliqué, lui aussi, à l'intérieur du principe d'identité des indiscernables. Ce qui est intéressant, c'est que, à la différence de l'attitude adoptée par Audi, par Guidenrosen, par Kitfein, c'est que on ne peut pas simplement dire, selon moi, que l'espace-temps existe ou que le cosmos existe, parce que l'existence est une nue entité, c'est-à-dire une entité qui est sans propriété, et que la question est métaphysique, consiste à demander. Hein, ce qui fait que, par exemple, une proposition est une raison, un fait vrai, parce qu'elle prend en charge l'existence de quelque chose, comme le dit très bien Leibniz sur la dernière lettre à Clark. Donc, ma question de départ, y a-t-il une raison du fondement ? Elle est en fait appuyée sur le plus puissant des principes métaphysiques, selon l'expression qu'emploie Leibniz lui-même, et qui est pour moi décisive, puisqu'elle elle pose la question de savoir s'il y a dans la réalité des indiscernables, ou si on ne fait rien que s'opposer au principe de non-contradiction, que je préfère appeler ainsi plutôt que le principe de contradiction. Pourtant, en répondant de cette manière, je ne cherche pas d'argument historique d'autorité. Je ne prétends pas à répondre à la nécessité du fondement. Je sais qu'il y a des explications normatives, il y a aussi des explications naturelles qui sont admissibles et qui intègrent cette relation asymétrique et irréflexive entre ce qui fonde et ce qui est fondé, tel que nous l'avons abordé depuis hier. Ma propre interprétation, c'est de dire que la constitution mérologique ne suffit pas à fonder la nature de cette relation. Et de même, je pense que la notion ici défendue il y a 20 ans par David Hamson des vérifacteurs reste présente à l'intérieur du débat. Et pour vous montrer qu'elle est présente à l'intérieur du débat, je vais vous lire ce nouveau texte de Kitfein, qui est un modèle du genre. Donc, dans un troisième moment de mon exposé, je voudrais expliquer pourquoi est-ce que l'idée du truth-making reste extrêmement intéressante et peut suppléer ou corriger l'expression du grounding, des fondements au sens du grounding. Alors l'idée des vérifacteurs, c'est l'idée qu'il y a quelque chose qui, en troisième partie, pourquoi je vais défendre le truth-making encore, de façon peut-être un peu hérétique ou un peu comme un grognard d'arrière-garde. Il y a quelque chose dans le monde, un fait, peut-être un état de choses, qui rend vrai une expression qui se trouve dans le langage être ou un énoncé, statement, ou une proposition. Donc l'idée des vérifacteurs ne cherche pas à ontologiser ces derniers, comme on le dit souvent de manière un peu critique. Si je dis que le ciel est bleu, par exemple, ça ne veut absolument pas dire que les gouttelettes d'eau qui sont à 9 500 km d'altitude, réfractées d'une certaine manière, sont ce qui rend vrai l'expression « le ciel est bleu ». Non, ça veut dire qu'il y a une disposition perceptive qui est en situation de produire en descente un énoncé disant que le ciel est bleu. Donc le vérifacteur, c'est jamais une chose. Comme le disait ici même Armstrong, ici même ou dans un autre amphibe, il ne s'agit pas de « making truth ». On ne va pas faire des vérités. Qui va faire des vérités ? C'est l'objection que lui faisait Horwich, de dire ah ben vous faites des vérités. Non, il dit je rends vrai des énoncés, mais ce n'est pas pour autant que je crée des vérités supplétives ou décoratives. Bon, alors pourquoi est-ce que cette notion reste intéressante ? Parce qu'elle nous permet, je crois, en métaphysique, d'arriver à une explication satisfaisante relativement au quotidien, c'est-à-dire à ce qui est du côté du monde, et à rendre vrai ce que nous pouvons dire à ce sujet, comme le défendait Armstrong dans son livre de 1997, puis dans un ouvrage un petit peu plus opinionated, qui est en 2004. Maintenant, du côté sémantique, les choses ne sont pas pareilles. Parce que l'idée que la pensée peut atteindre à une expression valide, c'est de dire comment il se fait que des phrases du langage sont rendues vraies par ce qui est dans le monde. Ce n'est pas du tout la même question. Donc, dans un premier cas, l'adoption des vérifacteurs, c'est la défense d'un principe qui nous conduit du langage vers le monde. Dans le second cas, ça nous conduit du monde vers le langage. Alors, bon, d'autres philosophes donc, comme Fine, comme Horwich, ont défendu un point de vue opposé à celui-là, mais bon, sans faire un joke, je dirais que d'un côté, nous avons le junk entre les relata, qui est très important, si on dit des choses, si on énonce des phrases. Par exemple, si on dit que les virus ont précédé les êtres vivants, ce qui paraît une expression absolument scandaleuse, qui est pourtant une expression que les biologistes soutiennent aujourd'hui, parce que des morceaux de bras animés, des morceaux d'acides aminés qui se mettent ensemble, bon, bah, ils n'ont pas de noyau, mais ils cherchent à former quelque chose qui est vivant. On va créer donc une situation où on aperçoit qu'une stratégie des virus, qu'on est bien incapable de définir, dans lesquelles ces virus vont eux-mêmes inventer des êtres vivants pour capturer des noyaux, faire à partir ces noyaux, une reproduction de ces virus, etc. Donc la question de savoir si les virus ont été premiers ou pas, c'est une question qui est d'ordre précisément métaphysique. Donc, le junk entre les relata d'un côté, bon, les choses qui rendent vraies des énoncés, et puis de l'autre côté, bon, le fait qu'il y ait des phrases ou des propositions qui doivent en effet servir d'outils sémantiques sérieux. Bon, donc le principe général d'une métaphysique, c'est bien de comprendre le monde, de chercher en quoi, précisément, il y a des choses dans le monde qui rendent des énoncés vrais. Il ne s'agit pas de dire que les ailes de l'oiseau, ce sont les vérifacteurs du vol de l'oiseau. Par contre, si je prends quelqu'un qui nage, on comprend bien ce que ça veut dire. Là, si je dis que X nage, il n'est pas simplement dans l'eau, il exerce une activité de propulsion qui part, cette activité de propulsion de l'eau permet d'avancer. Et là, on a un vérifacteur clair de ce que c'est. Mais si nous voulons comprendre maintenant des phrases plus simples qui sont courantes dans le langage, si je dis par exemple, comme disait Merleau-Ponty, à savoir s'il y a une chaise dans la cuisine, le projet métaphysique n'est pas d'aller interroger la microphysique des particules qui fait qu'une chaise est une chaise. On ne va pas faire une réduction du macroscopique au microscopique. Mais au contraire, de se demander comment je reconnais qu'une chaise est une chaise. Le vérifacteur d'une chaise, c'est ce que me disait David Armstrong, le vérifacteur d'une chaise, c'est qu'elle doit être capable de supporter mon poids. Voilà, c'est techniquement ça qui définit le vérifacteur d'une chaise. C'est pas sa forme ou sa constitution apparente. Par contre, au niveau des objets ordinaires, macroscopiques ou mésoscopiques, je dirais, qui sont plutôt organisés à partir de ce que notre squelette peut en faire, comme disait encore une fois Armstrong, notre squelette est organisé par une série de structures qui permet en effet de manipuler des objets, d'en soulever d'autres, etc. Et c'est oui, je vais finir. Au niveau des objets macroscopiques, on peut se demander effectivement dans ce cas-là s'il n'y a pas quelque chose d'autre qui permettrait de les appréhender. Donc il y a une longue tradition concernant la vérité qui remonte maintenant à Frege. On a donc une conception du vrai, d'une sémantique qui s'appuie sur ce que Frege a dit en 1890 et qui était repris en 67 par Davidson dans une conception que m'a un petit peu oubliée mais qui est très importante, une conception clausale qui dit qu'une vérité est déterminée par les clauses et les conditions qui spécifient un énoncé vrai. Mais si on adopte maintenant une conception objectuelle pour savoir comment nous allons aller vers les objets sans passer par des clauses, on est obligé de passer par une sémantique des mondes possibles, par exemple comme celle de Montag, qui a été développée en 1970. Mais indépendamment de cette conception objectuelle, je vais terminer là-dessus, parce que c'est une chose que Fine a dit de façon très profonde, même si maintenant je suis un petit peu fâché parce qu'il a d'abord critiqué le truth-making, puis maintenant il revient au truth-making, ça me paraît un petit peu énervant parce qu'on a l'impression qu'il joue sur les deux tableaux. On peut dire que ce qui est vrai, c'est qu'il a expliqué dans son premier temps de son œuvre que quand on parle du grounding, on ne dit rien sur ce que sont les fondements. On ne dit rien sur ce que sont les grounds. On explique une relation, mais on ne se prononce pas ontologiquement sur ces éléments fondateurs de la relation. Inversement, dans ce qu'il essaye de faire maintenant, il va essayer de réfléchir sur quelle connexion pertinente existe entre state, entre un état, une situation, et un statement, et un énoncé. Et ça, c'est quelque chose qui permet de reconstituer une sémantique sur la base des vérifacteurs. Donc vous avez deux côtés. Un premier côté qui est une sémantique qui reste déterminée par des clauses, à savoir, bon, on détermine le fait que P, qui est en effet une vérité qu'on ne peut pas expliquer simplement par la redondance en disant que le fait que P est vrai est vrai, ce qu'on dit souvent pourtant, enfin ça reste une condition sémantique clausale. Et puis, deuxièmement, ce qui m'intéresse dans le principe de la vérité suffisante, si j'ose dire, c'est l'expression objectuelle, qui peut être de deux ordres, ou bien elle est en relation avec la physique fondamentale, elle est du monde, On va s'intéresser sur ce que sont les cristals, les métaux lourds, les cristaux, les métaux lourds. On va interroger la structure des matériaux, qui est aujourd'hui devenue, à mon avis, quelque chose de très important pour le métaphysicien. Ce que sont les matières, en gros. Et à l'opposé de ce que sont les matières, il y a ce que j'appellerais non pas des événements, mais des états. Des états, c'est-à-dire des relata de la relation de truth-making, qui sont des états qui vont justifier qu'on puisse faire des énoncés un peu comme ce que disait Arlequin dans L'Empereur de la Lune, que si tu m'aimes Leibniz, qui est une pièce à la mode, tout est comme ici. Comme on dit en italien, tout le monde est paese. C'est-à-dire que ce qui vaut dans le domaine de ce que nos sens nous permettent de voir, vaut aussi dans le domaine de ce que nos sens ne permettent pas de voir. Je vous remercie de votre attention.